Donc, nous en étions à la question de la purification des cœurs, comprise d'abord comme purification de nos attachements aux convoitises. Je dis bien purification de nos attachements aux convoitises, et pas simplement, je dis pas simplement purification des convoitises, parce que il s'agit surtout de couper le lien intérieur, la complicité intérieure à certaines passions. C'est ça, en fond, qui blesse le plus le cœur de Dieu et qui nous, comment dire, nous empêche le plus d'avancer, parce que des convoitises charnelles, quelque part, on en aura toute notre vie, parce qu'il y a des choses qui sont inscrites dans la chair. Je pense, par exemple, à des tendances à la boulimie. Et l'important, c'est qu'il n'y ait pas d'attachement à la boulimie. C'est-à-dire que la personne ne s'accroche pas à ça, soit réellement au fond de son cœur dans un renoncement profond, simplement. La chair reste marquée par certaines tendances. On peut trouver dans la vie des saints, comme ça, des gros défauts extérieurs, par exemple. Saint Jérôme, je crois que c'est lui, des tendances à la colère. C'est charnel, c'est inscrit dans le corps, ça correspond à des choses qui je dirais, sur lesquelles on n'a pas de prise. L'important, c'est que dans notre cœur, il y ait un profond détachement et un profond renoncement à la colère. Ça se traduit notamment par le fait qu'on ne la nourrit plus. Et par le fait aussi que ces passions désordonnées comment dire, elles s'expriment sur le moment, c'est-à-dire dans des premiers mouvements. C'est là qu'on rejoint ce que je vous disais sur les péchés de faiblesse. Le juste pêche sept fois le jour, le saint pêche sept fois le jour, parce qu'il y a des moments où il n'est pas vigilant, et c'est. Ces pulsions, ce qui reste de tendance charnelle en lui, peut reprendre à certains moments le dessus, alors qu'en réalité, son cœur est pur. Saint François de Sales va dans le sens de dire que Dieu peut garder des gros défauts extérieurs comme ça à certains de ses saints pour les garder dans l'humilité, les cacher aux yeux des autres. Mais en réalité, ce sont des défauts extérieurs qui n'ont plus de gravité, parce qu'encore une fois, il n'y a plus d'attachement intérieur à ces passions désordonnées. Dans ce temps que Saint Jean de la Croix appelle la purification des sens, et qui correspond à ce que Saint Paul dit dans l'Épître aux Galates, à propos de ceux qui appartiennent au Christ, je vous avais cité ce matin ce passage, je ne vous ai pas donné la référence, hein. C'est Galates 5, 24. Il parle de la lutte entre la chair et l'esprit. Nous savons tout ce que produit la chair, fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie. C'est là qu'il dit, vous ne laissez pas conduire par vos convoitises charnelles, mais laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Et il dit, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Qu'est-ce que ça veut dire, crucifier la chair avec ses passions et ses convoitises? Ça veut dire pas simplement rectifier le comportement, comme on changerait ses habitudes. On arriverait je dirais, à se maîtriser par rapport à certaines tendances, par exemple au niveau de l'impureté, mais c'est arriver à enlever le mal, à déraciner le mal de notre cœur, précisément en arrivant à nous détacher de ces tendances. Et ici, nous touchons la question du repentir. Okay. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. La ferme résolution de ne plus retomber dans les péchés charnels, elle naît du très grand regret. Le très grand regret, c'est un regret d'amour, un repentir d'amour. C'est ça qu'on appelle la contrition, de manière précise. Un repentir d'amour qui nous fait détester le péché, par amour pour celui que nous avons blessé, que nous avons offensé. Encore une fois, non pas tant par l'acte concret que par notre complicité au mal intérieur. C'est l'aspect volontaire du péché. Quand je dis volontaire, c'est au niveau, en réalité, du cœur, d'une complicité qui fait que ça n'a pas été simplement un premier mouvement qui nous a échappé, mais que ça a été quelque chose dans lequel nous nous sommes complus. Et j'insiste là-dessus parce que nous sommes dans une période de la vie de l'Église où on a, pour une grande part, en Occident en tout cas, perdu le sens de la pénitence. C'est-à-dire, on se confesse sans avoir conscience que le but de la confession, c'est de nous amener à un repentir d'amour. C'est pas de régler les comptes avec Dieu en étant, dans les clous, entre guillemets, parce qu'on a confessé, on a reçu le pardon des péchés. On peut recevoir le pardon des péchés, de fait, Dieu pardonne, même si on n'a pas un repentir d'amour, mais à ce moment-là, il pardonne le péché, mais il ne guérit pas le péché à la racine. C'est-à-dire, si nous n'avançons pas dans le sens d'un repentir d'amour, nous n'arriverons pas à briser, à nous libérer de notre attachement secret au péché. Alors si on se confesse, c'est pas simplement pour nous laver de la souillure de nos péchés concrets accumulés, enlever la poussière qui s'est accumulée dans nos âmes, mais c'est pour avancer sur le chemin d'une guérison en profondeur. C'est la grâce propre du sacrement, c'est pour ça aussi que ce sacrement nous est donné. Dieu peut nous purifier de nos péchés de multiples manières, mais dans le sacrement de la pénitence, il nous donne en plus une grâce qui est précisément celle d'avancer plus loin dans le repentir. On ne se confesse pas parce qu'on éprouve un repentir d'amour, on se confesse pour éprouver un repentir d'amour, je veux dire pour aller dans le sens du repentir d'amour. Moi, personnellement, je me suis confessé pendant des années d'une colère par rapport à une personne précise. Et j'ai attendu des années avant de pouvoir vivre ce repentir d'amour qui m'a définitivement libéré de cette colère, en l'espace d'un instant. Parce que quand on éprouve cette douleur face au cœur blessé de Jésus et que l'on ressent la souffrance que l'on inflige à l'unique innocent, à ce moment-là, jaillit de notre cœur ce que le catéchisme du Concile de Trente appelle une souveraine détestation du mal. Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal. C'est une haine et un rejet du mal parce qu'il blesse le cœur de Dieu, qui nous est donné de vivre et qui coupe, qui nous libère de cet attachement secret. C'est ça qu'on appelle le repentir. Repentir d'amour. C'est un acte de charité pour Dieu. C'est-à-dire, on ne regrette pas son péché parce qu'on se trouve moche, qu'on voudrait être mieux. On ne regrette pas le péché à cause de soi. On ne se confesse pas, on n'est pas dans un remords tourné sur soi. On n'est pas dans la culpabilité, mais on est dans un regret d'amour qui nous fait voir le vrai mal du péché. Le vrai mal du péché, c'est qu'il blesse Dieu. C'est pour ça aussi qu'on se confesse traditionnellement devant un crucifix. pour exciter, éveiller le repentir en soi. Mais il ne suffit pas de se confesser devant un crucifix. Il faut l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit de vérité seul peut nous dévoiler la souffrance du cœur de Dieu et la malice réelle du péché. Voyez, la confession, c'est une réconciliation avec Dieu, comme une réconciliation entre deux amis. Quand on demande pardon à quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on a blessé, on souffre de l'avoir blessé, si on l'aime vraiment. Et on lui demande pardon en étant ému aussi par cette souffrance et ce désir de réparer, de se réconcilier avec lui, moyennant la reconnaissance de notre faute et une demande sincère de pardon. Souvent, nous nous confessons dans d'autres dispositions. Nous sommes plutôt comme celui qui irait voir un psychiatre et nous sommes là dans l'attente de nous sentir mieux, d'être libérés de notre culpabilité, de retrouver la paix. Mais nous oublions l'essentiel, la réconciliation avec un ami qu'on a offensé. On oublie celui auquel on va demander pardon. Ce que le catéchisme du Concile de Trente appelle un remords à cause de soi, tourné sur soi. C'est ce qu'on appelle dans la tradition de l'Église l'attrition, c'est-à-dire une contrition imparfaite, un repentir imparfait. Alors encore une fois, dans la confession, par la grâce du sacrement, même si on reste au niveau d'une attrition, le pardon des péchés est donné. Mais par contre, ce qui n'est pas donné, c'est la guérison radicale par rapport au péché. C'est-à-dire à ce moment-là, on est comme par rapport à une mauvaise herbe. On l'a coupée, la mauvaise herbe, on n'a pas enlevé la racine et ça repousse. Et après, on s'étonne de se confesser pendant des années toujours des mêmes péchés. Mais on n'a pas compris la logique du sacrement. La logique du sacrement, c'est de nous entraîner dans un repentir d'amour. De sacrement en sacrement. C'est aussi un des fruits du sacrement que de nous acheminer, parce que ça peut prendre du temps, longtemps même, de nous acheminer vers un vrai repentir. Donc je dis ça, c'est pour que vous vous confessiez avec au moins le désir du repentir. C'est une grâce, le repentir d'amour. Si vous ne l'avez jamais éprouvé d'une manière violente, forte, bien demander au Seigneur la grâce. Moi, je l'ai ressenti plusieurs fois dans ma vie. À chaque fois, j'ai ressenti la même chose, c'est-à-dire une coupure radicale avec ce qui restait en moi de complicité avec le mal, qui fait que il y a vraiment une étape qui est franchie, on ne retombe plus dans la faute en question. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit broyé. Le catéchisme du Concile de Trente commente en disant que le cœur est broyé par la contrition. Contrition vient d'un mot latin qui signifie broyer. Le cœur est vraiment brisé, broyé par cette souffrance qui naît de la perception de la douleur infligée au cœur de Dieu. On a perdu pour une grande part ce sens du repentir. Et on a perdu pour une grande part aussi le sens de l'aveu qui est là en fait pour nous aider à vivre, à entrer dans ce repentir. L'aveu, c'est ce qui dépend le plus de nous. L'aveu, c'est un acte d'humilité d'abord, il faut le vivre comme tel. S'humilier devant Dieu pour obtenir de lui la grâce du repentir. C'est quelque chose qui nous coûte, qui commence à broyer notre orgueil. Mais précisément, c'est notre orgueil qui fait que profondément nous restons attachés au péché. Dieu donne sa grâce aux humbles en faisant cet acte d'humilité, consciemment, librement, en buvant la coupe du calice librement, l'humiliation, de l'aveu, exercice très pénible, disait Jean-Paul II, mais en vivant ça consciemment et dans le désir d'obtenir le repentir. Bien, de confession en confession, on progresse. Mais aller jusqu'au bout de la sincérité de l'aveu, péché, les circonstances, l'aveu complet, sobre mais complet, l'intention, les circonstances aggravantes, pas se contenter de généralité. Il vaut mieux épingler certains péchés précis en choisissant ceux qui nous sont le plus difficiles à dire. Ici, je prêche l'exigence parce que c'est un exercice concret que l'on peut vivre vraiment comme, je dirais, étant le moyen par excellence pour nous réformer et nous purifier, un exercice dont on ne profite pas assez parce qu'on ne le vit pas suffisamment comme le lieu d'une conversion et d'un exercice d'humilité qui va ouvrir notre cœur au don d'un vrai repentir. À ce sujet-là, je me reviens à l'esprit que dans ma vie, à chaque fois que j'ai reçu cette grâce de repentir d'amour et que j'ai éclaté en sanglots, eh bien, c'était juste après l'aveu. C'est pas pour rien que l'acte de contrition vient après l'aveu. Mais c'était pas pendant que je disais l'acte de contrition. C'est donné comme ça. Quand on dit l'acte de contrition, c'est pour éveiller en nous cette contrition. Mais c'est pas parce qu'on est habituellement, très souvent, en dessous de cet acte de contrition. À vrai dire, l'Église enseigne que la puissance de la contrition d'amour, du repentir d'amour est tellement forte que si on vit un vrai repentir d'amour par rapport à son péché, on n'a plus besoin en réalité de se confesser parce que ça efface le péché. Dans le doute, c'est bien de se confesser, si je puis dire. Ça ne change rien d'avoir recevoir en plus la grâce du sacrement. Mais il faut penser que des personnes peuvent être libérées d'un péché mortel en recevant de Dieu, avant leur mort, cette grâce du repentir. C'est aussi pour ça, parce qu'à ce moment-là, elles sont vraiment purifiées, et radicalement. C'est aussi pour ça, il y a une sainte qui a contemplé le purgatoire comme étant un chemin conduisant à une contrition parfaite qui fait qu'on, dès qu'on arrive à la contrition parfaite, on rentre dans le ciel. C'est un chemin... ce chemin de l'humilité et du repentir, c'est un chemin qui peut se vivre en dehors du sacrement. Je veux dire qu'il y a une puissance de l'aveu, qui est celle de l'humilité, d'un acte d'humilité conscient. Et il y a une force de la contrition d'amour qui est un don de l'Esprit Saint qui nous est donné, n'est pas limité au sacrement de la réconciliation, même si nous avons là les conditions les meilleures, entre guillemets, et celles qui nous sont offertes par l'Église pour vivre cette profonde purification de notre cœur. Et l'Église a toujours, enseigné à la suite de Saint Jacques la valeur de l'aveu au-delà du sacrement, ce qu'on appelle l'aveu aux frères, ce qui dans les monastères correspond à la coulpe. Une fois par semaine, traditionnellement, les moines se retrouvent, chacun reconnaît ses fautes devant les autres par rapport à la règle. Et ceux qui ont vu un frère commettre une faute le disent. On s'accuse et on est accusé. Exercice pénitentiel, on ne peut plus profitable quand c'est vécu vraiment dans l'espérance, dans le désir de la sainteté et en vue d'un repentir. Si c'est vécu autrement, ça devient invivable et certains monastères ont arrêté dans les années 60. Je vois que maintenant il y a des monastères qui essayent de retrouver ça, de le redécouvrir. Mais ça correspond à une crise aussi de l'esprit pénitentiel dans l'Église. Vous voyez, on a perdu l'usage fréquent de la confession, qui normalement chez les prêtres et le religieux était une fois par semaine, et on a perdu aussi en même temps, c'était inévitable, ce sens de la culpe, de battre sa culpe devant les frères. L'aveu aux frères. Écoutez Saint Jacques. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Jacques 5, 16. Vous avez dû entendre dire que les croisés, avant de partir au combat, se confessaient les uns aux autres. Il n'y avait pas possibilité de se confesser tous aux prêtres. Ils se confessaient les uns aux autres. Ils vivaient l'aveu aux frères, dans un esprit de pénitence, de repentir. Et ils se préparaient à mourir ainsi au combat en étant dans les bonnes dispositions. Voyez, de manière très concrète, vous accompagnez quelqu'un qui est proche de la mort. Il ne peut pas ou il ne veut pas voir un prêtre. Faites votre possible pour qu'il puisse se confesser à vous. Amenez-le à avouer, à reconnaître. Il y a un besoin, en réalité, au fond de notre cœur, d'avouer, d'aller jusqu'à l'aveu. Un acte d'humilité, un acte qui libère. En même temps, de manière assez immédiate. Mais si vous l'amenez dans les bonnes dispositions, il pourra, grâce à vous, rentrer dans le repentir, à travers de cet aveu. Moi, à vrai dire, les grâces de contrition que j'ai reçues étaient en dehors du sacrement. En dehors du sacrement. Une fois, lors d'une prière pour moi, pendant une agapée, où j'ai dit des choses, personne n'a compris pourquoi j'éclatais en sanglots, ça, c'est pas grave, c'est pas gênant. Et puis une autre fois, plusieurs autres fois, avec une personne qui m'aide beaucoup et avec lequel j'ai un dialogue fraternel et avec laquelle je suis en transparence. Dans le catéchisme du Concile de Trente, il est dit. Je ne sais pas si je vais retrouver ça, mais il est dit que il est il ne peut plus profitable pour vaincre nos défauts qu'une reconnaissance fréquente, quotidienne, de nos manquements à un ami sage et fidèle. J'aime bien l'expression. Un ami sage et fidèle qui puisse entendre et qui, par cette reconnaissance fréquente de nos manquements, à cet ami sage et fidèle, puisse nous aider à nous corriger. Je vous le retrouverai éventuellement plus tard, ce passage. Les vrais amis, c'est ceux qui aussi nous révèlent, hein, ont le courage de nous corriger. Correction fraternelle est une grande œuvre de miséricorde, et ceux auxquels on peut, devant lesquels on peut reconnaître simplement nos manquements, nos défauts, en se confiant à leur prière. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Ça, c'est les vrais amis. Dans quelle mesure ça peut être vécu à l'intérieur d'un couple? Tout dépend de la profondeur du désir de sainteté qui les anime, et puis aussi la relation, mais l'idéal, c'est évidemment une correction fraternelle à l'intérieur d'une vie de couple aussi, qui fait qu'on se dit des choses et qu'on se libère ainsi, aussi à travers, vous voyez, la personne dont je vous ai parlé, plutôt, disons, une personne avec laquelle j'ai travaillé quand j'étais aumônier d'hôpital, elle visitait les prisonniers. Par la qualité de son écoute, de sa compassion, elle les amenait à dire des choses qu'ils ne pensaient pas dire, à reconnaître leurs fautes jusqu'au bout. Moi, je passais après pour confesser, mais le travail était fait. Il fallait une compassion, une écoute telle que le cœur puisse s'ouvrir à se livrer. Quand on a passé le cap de l'aveu, c'est bon. Après, on peut redire les choses au prêtre. Mais c'est plus important pour les personnes, voyez, d'aller jusqu'au bout de l'aveu, toute sincérité, que de recevoir le sacrement sans aller jusqu'au bout de l'aveu. Donc, je dis ça parce que nous serons tous amenés, et je pense là à mon expérience aussi d'aumônier d'hôpital, à accompagner des personnes jusqu'à la mort. De demander pour ces personnes que nous accompagnons la grâce d'un repentir final par rapport à des choses qu'ils ont pu porter quelquefois toute leur vie, qu'ils n'ont jamais pu dire, oser dire. La qualité de notre écoute, de notre compassion, libérer les cœurs, la puissance de l'aveu. Et nous-mêmes, nous sommes peut-être amenés à mourir sans avoir un prêtre à nos côtés, mais en posant des actes dans ce sens-là. Voyez. Tout ça, ça fait partie, voyez, de la manière dont nous pouvons activement nous purifier. Purifier notre cœur. Je reviens à cette question donc, de la purification des sens. Je vous ai dit, il y a purification active, purification passive. Je reprends les distinctions faites par Saint Jean de la Croix. Dans les purifications actives, il faut mettre toute la tradition pénitentielle de l'Église, qui est à redécouvrir. Et je termine avec cette tradition pénitentielle pour dire aussi que on oublie l'importance des pénitences concrètes. Je prends la ferme résolution, portée par mon repentir, j'ai un très grand regret, et je prends la ferme résolution. Portée par le repentir, je prends la ferme résolution, mais mon repentir, il est peut-être encore imparfait, mais malgré tout, je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce, ne plus vous offenser, de faire pénitence. Ce faire pénitence correspond ici, à ce moment-là, c'est le faire pénitence au sens restreint du terme, à des actions pénitentielles, des œuvres pénitentielles. Les œuvres pénitentielles, ce sont des actes que l'on pose, notamment, agere contra, des actes qui vont dans le sens contraire de la mauvaise tendance. Par exemple, si j'ai tendance à juger quelqu'un, le fait de prier pour lui va dans un sens contraire, si j'ai tendance à lui vouloir du mal, en tout cas le fait de le bénir va m'aider à sortir d'une sorte de ressentiment. Et enfin, il y a des actes concrets que l'on peut poser même si le cœur reste attaché au péché. Quand saint Paul dit en Romains 12, non, c'est... Attendez, je ne vais pas vous dire. Il dit à propos de la relation aux ennemis. Vous savez, saint Paul dit, si ton ennemi a faim, voilà. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. Le fait de donner à manger à notre ennemi, nous pouvons le faire, de lui rendre un petit service, nous pouvons le faire même si nous gardons de la colère au fond de notre cœur. Ça, c'est concret. Il va me dire, c'est hypocrite, on a de la colère, on lui donne à manger. Non, c'est pas hypocrite. C'est l'expression de notre bonne volonté. Rappelez-vous ce que je vous dis ce matin. On n'a pas encore nécessairement... On peut prendre un temps d'adoration sans avoir un grand élan d'amour pour Jésus, mais on le fait même si on s'ennuie, que notre cœur est un peu ailleurs, mais on en est conscient et puis on offre ça. Ben de la même manière, on peut poser des actes concrets de miséricorde vis-à-vis de quelqu'un par rapport auquel on a encore du ressentiment, mais dans cet esprit pénitentiel, des actions de pénitence. À ce sujet-là, je peux vous lire dans ce sens-là un passage de saint Macaire qui est dans le Magnificat du mois d'octobre que vous pourrez retrouver. C'est Eliane qui me l'a fait voir et Je remercie bien parce que ça rejoint ce que j'essaye de balbutier. Lorsque quelqu'un s'approche du Seigneur, il faut d'abord qu'il se fasse violence pour accomplir le bien, même si son cœur ne le veut pas. Vous voyez, ici, on voit bien la distinction entre la volonté et le cœur, déjà, et l'importance de la bonne volonté. Et on n'est pas dans le volontarisme, là. On n'est pas dans le volontarisme parce qu'on est conscient que le cœur ne le veut pas, on est conscient que notre acte est imparfait, mais malgré tout, on est conscient aussi que ces actes concrets ont leur valeur et leur force propre. Et on le vit comme une humble offrande de notre bonne volonté à Dieu, mais une bonne volonté qui doit s'exprimer concrètement dans des actes concrets. Si quelqu'un s'approche du Seigneur, il faut d'abord qu'il se fasse violence pour accomplir le bien, même si son cœur ne le veut pas, attendant toujours sa miséricorde avec une foi inébranlable. Sa miséricorde qui nous donnera d'être purifiés de nos péchés. Une miséricorde qui nous libérera de ce qui fait que notre cœur ne le veut pas. Qu'il se fasse violence pour aimer sans avoir d'amour. Alors, qu'il se fasse violence pour aimer, ce n'est pas pour avoir éprouvé un sentiment d'amour. C'est absurde. Mais qu'il se fasse violence pour aimer au sens où ça dépend de nous, c'est-à-dire de rendre des services à l'autre. D'en mis à faim, de lui à manger. Qu'il se fasse violence pour être doux sans avoir de douceur. Au niveau des actes concrets. Qu'il se fasse violence pour être compatissant et avoir un cœur miséricordieux. J'ai envie de dire simplement qu'il se fasse violence pour être compatissant, parce qu'avoir un cœur miséricordieux, ça nous dépasse. Mais des actes de compassion. Qu'il se fasse violence pour prier sans avoir la prière spirituelle. Prière vocale. On s'accroche à son chapelet. L'humilité sauve tout. Tant qu'on est conscient et qu'on reconnaît que notre cœur reste partagé, que notre cœur est encore loin du Seigneur, il m'honore des lèvres. Oui, mais on reconnaît et on offre au Seigneur notre bonne volonté, eh bien, on peut dire ses psaumes, on peut dire son chapelet. Voilà. On a le cœur sec, mais on pose l'acte. Ça rentre dans la logique des actes pénitentiels, qui ne sont pas l'expression d'une conversion profonde, mais plutôt en vue d'une conversion profonde. Parce que le fait, vous voyez, de poser l'acte concret, c'est, je dirais, c'est, moi j'ai l'image d'une voiture qui marche pas, n'arrive pas à faire démarrer le moteur, on pousse la voiture, on la pousse, ça vient pas de la voiture elle-même, son moteur lui ne marche pas, mais en la poussant, ça va remettre le moteur en marche. Eh bien, à force de poser des actes extérieurs, même si notre cœur ne le veut pas, un jour il le voudra. Un jour il le voudra. Si on fait ça dans cet esprit d'humilité et en suppliant le Seigneur de nous convertir. Pas dans une sorte de recherche de perfection propre ou de donner des apparences au regard des autres et à notre propre regard. Pas dans une recherche de perfection morale non plus, mais dans cet esprit de pénitence, de repentir, enfin de recherche d'un vrai repentir. J'espère que je me suis bien exprimé, mais vous voyez, Saint Macaire continue en disant « Dieu, quand Dieu verra comment il lutte et se fait violence, alors que son cœur ne le veut pas, il lui donnera la vraie prière spirituelle, il lui donnera la vraie charité, la vraie douceur, des entrailles de compassion, la vraie bonté. En un mot, il le remplira des dons du Saint-Esprit. Il se donnera lui-même tout entier à lui. Désormais, c'est le Seigneur lui-même qui accomplira en toute vérité, en toute pureté, sans fatigue ni violence, ce qu'il n'arrivait pas à observer auparavant, même en se faisant violence parce que le péché habitait en lui. » Oui, mais il a fait son possible quand même. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous enfoncer et de faire pénitence, agire contra, agir contre, comme on peut. Ici, il est bon de se rappeler que le terme de violence apparaît et là aussi, par crainte quelquefois de tomber dans le volontarisme, On a oublié qu'il y a une sainte violence. C'est-à-dire que c'est possible dans la vie chrétienne de faire de grands efforts. Ce n'est pas interdit. Il me revient à l'esprit une parole de la petite Thérèse dans laquelle elle dit, il y a des sœurs qui me disent « j'y arriverai jamais, je ne pourrai jamais ». Et elle dit mais qu'il fasse un grand effort. Qu'il fasse un grand effort, et je crois qu'elle dit, au fond, il n'y a que le premier pas qui coûte, quoi. Non, dans la vie spirituelle, il y a des moments où, de fait, le Seigneur nous demande de prendre sur nous, de nous contraindre à telle action concrète qui nous coûte énormément, par laquelle on doit passer. Il ne faut pas, il ne faut pas se le cacher à soi-même et se dire « moi, je suis tout petit, je ne peux pas, je m'abandonne, mais Seigneur, qui va faire ?» Non. Mais, encore une fois, si c'est comme l'expression de notre bonne volonté sur un point concret, mais dans l'espérance que le Seigneur, lui, fasse ce que nous, on ne peut pas faire, c'est-à-dire purifier notre cœur et le convertir vraiment, ce n'est pas du volontarisme. C'est de la lutte. Vous n'avez pas encore résisté, lutté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. Sur le chemin de la sainteté, il ne faut pas oublier de mobiliser la volonté. Il y a une force de la volonté, même si la plus grande force, c'est la passion d'amour pour Dieu, la charité divine, quand elle nous meut, c'est elle qui nous donne la force d'aller jusqu'au bout du martyre, hein, qui donne cette force aux saints, hein, de faire des œuvres extraordinaires, entre guillemets, en tout cas d'aller jusqu'au bout d'un don total d'eux-mêmes, mais il y a aussi la force de la volonté que le Seigneur nous a donnée. Puisse poser des actes concrets. Et cette force de la volonté, il ne faut pas la négliger. Volonté sèche et nue. Il ne faudrait pas que nous arrivions au jour du jugement devant le Seigneur en disant « Ah oui, mais je ne pouvais pas. » Et que le Seigneur nous dise « Ben, si tu aurais pu, si tu t'étais contraint toi-même, si tu avais pu, je dirais, faire tel effort, ben tu aurais pu passer telle étape dans ta vie, mais tu es resté sans avancer sur ce chemin, alors que le chemin de la pénitence était possible pour toi. » C'est pour ça que, quelque part, je ne sais plus où, Sainte Thérèse d'Avila dit que dans la vie spirituelle, il faut du désir, mais aussi du courage. Rappelez-vous la petite Thérèse s'accrochant à l'escalier, hein, pour ne pas aller voir ses sœurs, pour lutter contre son attachement aux sœurs, s'accrochant à l'escalier, luttant contre elle-même, la lutte la plus dure. Là, c'était du concret. Lutter pour entrer par la porte étroite. Je ne retrouve pas le passage où le Seigneur dit que le royaume de Dieu, hein, les violences en emparent. Bien, il y a une sainte violence. Et il faut, voyez, la vivre avec sagesse, c'est-à-dire mobiliser notre volonté là où le Seigneur nous le demande, sur le point. C'est là où on a besoin de la sagesse, de comprendre la logique des choses, l'ordre des choses, et là où le Seigneur nous demande de faire vraiment effort. Alors, il y a une question sur la psychanalyse. Je pensais en reparler ce soir de la question des retraites de guérison intérieure. Partager un petit peu aussi ce que j'ai cru pouvoir comprendre moi-même, ayant vécu moi-même une retraite de guérison intérieure. En tout cas, c'est sûr que ce qui se passe dans une retraite de guérison intérieure s'inscrit tout à fait dans ce que Saint Jean de la Croix décrit, une purification active des sens. Et la psychologie nous aide dans ce travail de vérité sur le péché et d'arriver à voir plus à la racine des choses en nous-mêmes. Comme je vous l'ai dit, si nous persévérons dans ce chemin de la pénitence, une fois Jean-Paul II a dit que la vie chrétienne était une longue pénitence, vous voyez ça, c'est plein d'espérance. En fait, notre espérance va plus loin. On peut toujours dire qu'il y a des choses à purifier, mais j'ai envie de dire que malgré tout, il y a un moment où, quand même, on sent qu'on est libéré vraiment et profondément de tels péchés. La pénitence, au sens où je l'entends, concret, et la pénitence, elle est surtout pour ce temps de purification active. Après vient un autre mode de pénitence, si je puis dire, qui est une pénitence passive, au sens où le Seigneur lui-même qui, comme je vous l'ai dit, purifie, achève de purifier. Et c'est là que se vit les nuits. Vous voyez, quand on dit la nuit des sens, c'est là que se vivent des états dans lesquels le Seigneur lui-même, qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Si nous avons fait notre possible dans la pénitence, il achève le travail en nous purifiant lui-même de ce qui reste d'attachement à une forme possessive d'aimer, l'attachement à l'amour possessif. En fait, il nous fait perdre le goût d'un amour qui n'est pas pur. Il nous détache des créatures, il nous détache de ce en quoi on avait mis notre cœur, en nous faisant perdre progressivement le goût de ça. Le goût. On aimait bien se retrouver avec des amis pour vivre un moment de complicité affective, pour être dans une relation très, oui, très affective, dans laquelle, et puis on se sent... On sent que ça ne nous nourrit plus comme ça nous nourrissait avant. Il y a quelque chose qui, sans qu'on y ait fait grand-chose, il y a quelque chose qui est, mais ça se fait sur des années progressivement, personne ne ressent plus les choses comme avant. Donc en fait, pour goûter une nouvelle nourriture, qui est la joie d'un amour filial, la joie d'aimer Dieu plus que soi, dans l'obéissance à Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père, dit Jésus. Pour nous préparer à goûter une autre nourriture, le Seigneur opère une opération de sevrage, et il nous enlève le goût des nourritures avarié. Donc il y a un moment où on n'est plus nourri du tout, quoi. On n'a pas encore la joie pure que Dieu réserve à ses amis, mais on ne trouve plus les consolations que l'on recherchait auprès des créatures. Et ça se mérite, hein. Très grande grâce. De vivre ce dessèchement d'une sensibilité qui fait qu'on est toujours à vouloir grignoter des petites jouissances comme ça, qui sont pas si saines que ça. Et que le Seigneur nous libère de ça. Et évidemment, à ce moment-là, le problème que ressentent les gens qui vivent ça, c'est qu'ils sont entourés de personnes qui ne vivent pas ça et qui, eux, restent à un niveau très affectif des relations. Et ben, ils ne peuvent plus jouer le jeu des relations affectives, puisque eux, comme on dit en Belgique, ça ne me goûte plus. Voilà ce que le Seigneur fait pour amener à la contemplation, dans lequel la personne va pouvoir goûter Dieu. La contemplation, c'est un contact donc de l'esprit avec le mystère de Dieu, c'est une connaissance de Dieu, comme ça intérieur, qui fait qu'on ressent paix et joie au plus intime de l'âme et qu'on est nourri par ce contact avec Dieu. Alors j'ai envie de vous citer un passage de l'Épître aux Hébreux qui exprime bien ce temps de purification nécessaire, qui peut être long, mais écoutez, rappelez-vous, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui, selon Benoît XVI, a dit dans ses audiences que c'était probablement Barnabé. On pense depuis longtemps que ce n'est pas Saint Paul, mais un disciple de Saint Paul, ce serait peut-être Barnabé qui aurait écrit l'Épître aux Hébreux. Voilà, ça c'est pour votre instruction, comme ça vous aurez appris des choses. Rappelez-vous ces premiers jours où, après avoir été illuminé, vous avez soutenu un grand assaut de souffrances. Tantôt exposé publiquement aux opprobres, aux tribulations, tantôt vous rendant solidaire de ceux qui étaient ainsi traités. Ça c'est les premiers temps, voyez, de la conversion. On est illuminé, il y a une rencontre avec le Christ qui nous attire à lui fortement. Et dans cette première rencontre, on a une grande force pour soutenir un grand assaut de souffrance. Vous avez pris part aux souffrances des prisonniers, vous avez accepté avec joie la spoliation de vos biens, comme l'homme qui a trouvé le trésor caché, qui vend avec joie ses biens, hein, parce que, sachant que vous étiez en possession d'une richesse meilleure et stable, l'espérance. Vous savez où est le vrai trésor, vous le désirez, vous acceptez la spoliation de vos biens. Ça, c'est par la communauté primitive, hein, vivant le martyr, j'allais dire, en permanence. Hein. Ne perdez donc pas votre assurance. Elle a une grande et juste récompense. Vous avez besoin de constance pour qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous bénéficiez de la promesse. Car encore un peu, bien peu de temps, celui qui vient arrivera, ne tardera pas. Or, mon juste vivra par la foi. S'il se dérobe, mon âme ne se complaira pas en lui. Persévérance. Voilà. Il y a une vie nouvelle au bout du chemin, qui est une vie contemplative. Ça, c'est Hébreux 10. Vous voyez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à des nouveaux convertis, qui ne sont plus tout à fait nouveaux convertis, qui ont vécu un premier temps de conversion très fort, très beau, mais qui traversent après une période où ils sont moins portés par des grâces sensibles, où ils ont à persévérer dans leur attachement à Dieu, à Jésus-Christ, en acceptant d'aller plus loin dans des renoncements à leur bien, à tout ce qui leur reste pour vivre, jusqu'à leur propre vie physique. Et il leur dit, tenez bon, persévérez, parce que celui qui vient ne tardera pas. J'oubliais, à propos de la purification des sens, comprend aussi une purification au niveau de l'intelligence. C'est-à-dire une purification de l'affectivité, qui est le point habituellement le plus douloureux et le plus difficile pour les gens, parce que, encore une fois, l'homme vit de relations. Mais nous avons aussi une intelligence qui est faite pour la vérité, et nous avons aussi soif de connaissance, pas simplement soif de relations. Mais nous avons soif de connaître des choses. En fait, derrière cette soif de connaître des choses, de comprendre, il y a une soif plus profonde, qui est une soif de voir Dieu, qui est la vérité même. Mais pour que notre esprit puisse s'ouvrir à la contemplation, c'est-à-dire à la vision de Dieu, sous un mode d'un contact intime avec le mystère, donc la foi contemplative, nous avons besoin de renoncer à des connaissances partielles, qui sont des connaissances en fait intellectuelles, dans lesquelles on peut se complaire. Il y a des personnes qui se nourrissent de relations affectives, et il y a des personnes qui se nourrissent de bouquins. Ils grignotent des bouquins. Au lieu de rester à la cafétéria pour bavarder, ils lisent leurs bouquins. Puis il y en a d'autres qui grignotent du chocolat. Ouais. Carrément, hein, attachement au chocolat. Peut-être un fil à la pâte aussi. Mais l'attachement aux connaissances intellectuelles, il y a l'intellectualisme, on se complaît dans un petit trésor d'idées, de possession, l'idée qu'on possède, dans lequel on est attaché, et qui nous nourrissent en partie. Le Seigneur, pour nous libérer de ça, peut, comment dire, comme paralyser un peu l'intellect. On n'arrive plus à méditer, à se nourrir de ce que l'on lit. On est sec. En fait, le Seigneur voudrait nous faire passer à un mode d'intelligence plus profond, qui est plus de l'ordre d'un regard, d'un contact avec le mystère, au-delà des pensées particulières qu'on peut avoir. Vous voyez, des personnes qui lisent la Bible en étant avides de connaître des choses, d'apprendre des choses, qui lisent des commentaires et des commentaires, ou qui se nourrissent de certains traités de vie spirituelle et qui sont toujours à s'instruire. Saint Paul parle de ceux qui sont toujours à s'instruire mais sans jamais parvenir à la vérité. Passer d'une connaissance notionnelle à l'intelligence du cœur qui voit. Le passage d'une connaissance notionnelle à l'intelligence du cœur qui voit fait partie de la purification des sens. À ce moment-là, c'est la sécheresse au niveau de l'intellect. On lit, mais ça ne nous nourrit plus comme avant. On finit par ne plus lire. On a du mal à méditer l'écriture, on n'arrive plus, on ne se gargarise plus de commentaires exégétiques, on ne sait plus tellement comment faire avec cette parole de Dieu qui ne nous nourrit plus comme avant. Ben ça peut être, il faut voir, parce que ça peut être lié à d'autres choses. Il faut faire attention à cette question de la nuit, des purifications, parce que ça peut être simplement lié au fait que notre esprit est endormi, parce que, par ailleurs, on se permet des... on se laisse aller au niveau de la gourmandise, où notre cœur est appesanti. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on tombe dans des états de sécheresse, tout simplement parce qu'on cède à des jouissances immédiates, et ça appesantit le cœur et ça alourdit l'esprit. Donc il ne faut pas si vite penser qu'on est rentré dans des nuits et des déserts. Il y a des personnes qui vivent des sécheresses tout simplement parce que leur cœur est loin du Seigneur, et qu'ils ont vraiment besoin de se convertir et de renoncer à certaines choses. Mais si on vit une vraie nuit, c'est suite à un chemin de pénitence, encore une fois, suite à une lutte au niveau de la pénitence, qui aboutit donc à une nouvelle profondeur de purification, où les choses se font d'elles-mêmes. Normalement, tout bon chrétien qui persévère dans la pénitence, dans un sincère désir de contrition et qui lutte contre le péché, doit aboutir à des phases de fête de désert et de nuit qui devraient l'ouvrir à une vie contemplative. Il faut l'espérer, il faut le désirer, il ne faut pas penser que ce soit réservé aux prêtres ou aux religieux. C'est le bon chrétien, c'est un spirituel, au sens où saint Paul parle de ceux qui sont charnels et de ceux qui sont spirituels, c'est-à-dire quelqu'un qui est arrivé à la contemplation. C'est un contemplatif actif. Il y a une personne qui arrive à la contemplation sans le savoir d'ailleurs. Elles vivent habituellement en contact intime, intérieur avec Dieu. Mais c'est là où j'hésite un peu, mais je vous en parle quand même, parce que Il y a peu de gens qui sont, que je connaisse en tout cas, et qui traversent ça. Il y a autre chose. Il y a ce que Saint Jean de la Croix appelle la purification de l'esprit. À vrai dire, Saint Jean de la Croix s'intéressait pas beaucoup à la purification des sens, parce qu'il y en avait plein d'autres qu'on avait parlé avant lui. Mais là où il est connu, comme un théologien mystique génial qui a mis en évidence quelque chose que les autres avaient plus de mal à exprimer, c'est dans cette distinction purification des sens, purification de l'esprit, et dans l'articulation des deux. Ici, je me permets, pourquoi je m'appuie sur Saint Jean de la Croix ? Parce que Saint Paul dit en 2 Corinthiens 7:1, en possession de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant de nous sanctifier dans la crainte de Dieu. De plus, on trouve dans l'Écriture des appels aussi du Seigneur qui dit « Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau, purifiez votre cœur, purifiez votre esprit. » J'ai insisté, donc là on rentre dans quelque chose de plus profond, qui est le passage en fait de la vie contemplative à la vie mystique. Ah oui, mais si vous voulez commencer la vie du ciel sur terre, il ne faut pas vous arrêter à la vie contemplative, mais ce serait déjà pas mal de parvenir à un état stable contemplatif, entendons-nous bien. Hein. Maintenant, bon, est-ce que tout le monde est appelé à rentrer dans la vie mystique ? C'est une question qui peut se disputer. Mais si on se fie au catéchisme de l'Église catholique, il y a une bonne nouvelle dans le catéchisme de l'Église catholique. Cette bonne nouvelle, je voudrais la retrouver à la bonne page. C'est que, oui, 2014, mes amis, le progrès spirituel tend à l'union toujours plus intime avec le Christ. Cette union s'appelle mystique parce qu'elle participe au mystère du Christ par les sacrements, les saints mystères, et en lui au mystère de la Sainte Trinité. Dieu nous appelle tous à cette intime union avec lui, même si des grâces spéciales ou des signes extraordinaires de cette vie mystique sont seulement accordés à certains en vue de manifester le don gratuit fait à tous. Marquez, la suite est intéressante, 2015. Le chemin de la perfection passe par la croix. Il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. On viendra sur cette question-là. Mais en réalité, si vous faites, vous prenez catéchisme, vous êtes moteur de recherche, vous cherchez un mystique, je crois qu'on ne trouve que cette occurrence-là. C'est dire que cette expression, le développement de la théologie mystique, n'est pas le point fort du XXe siècle. C'est-à-dire les choses comme ça. Mais c'est bien de savoir qu'il y a autre chose, même si on en entend rarement parler dans les prédications du dimanche. Donc, encore une fois, je vous parle de ça parce que Dieu m'a donné la grâce d'accompagner une personne qui a vécu la nuit de l'esprit et qui est entrée donc dans ce que le catéchisme appelle une union très intime au Christ et au mystère de la Sainte Trinité, ce qui rejoint ce que je vous disais ce matin, c'est-à-dire que je vois et je plonge. Commence la vie du ciel sur terre. Ce n'est pas simplement un contact intime avec le mystère de Dieu, mais c'est une participation intime et profonde à la vie même du Fils bien-aimé de Dieu dans cet échange d'amour qui fait que j'en arrive à participer à l'aspiration de l'Esprit-Saint. Évidemment, si on commence à prêcher ça le dimanche, devient un peu difficile. Bon. Mais dans le cadre de notre petite session, on peut en parler. De quoi il s'agit ? Dans ce passage des purifications ultimes, auquel nous sommes appelés, parvenir à cette union mystique auquel en réalité nous sommes tous appelés, même si il faut être conscient que dans la vie spirituelle il y a du plus et du moins, comme dirait Sainte Thérèse d'Avila, plus ou moins grand degré, mais en réalité nous sommes tous appelés. Ben, je dirais les choses comme ça. Hein. Moi, je vous dis les choses comme je les comprends. Je ne suis pas, je dirais, un spécialiste, mais je les comprends à partir d'un accompagnement et de ce que j'ai pu aussi recevoir du Père Thomas Philippe et de ce que j'ai pu comprendre de Saint Jean de la Croix. Mais connaissance reste limitée. Hein. Mais en gros, on peut dire les choses suivantes. Ce qui apparaît en premier dans le combat spirituel et dans notre chemin de conversion, c'est tout ce qui tourne autour de la cupidité, comme je vous disais ce matin, l'attachement aux créatures. Cet attachement aux créatures et au bien de la terre, enfin toute forme d'idolâtrie, parce que la cupidité est une idolâtrie, dit saint Paul, elle est en réalité conséquence du péché originel. C'est-à-dire, faute d'adorer Dieu et de trouver dans l'adoration de Dieu sa vraie joie, dans l'action de grâce, l'homme s'est rabattu, si je puis dire, sur les créatures. Il ne pouvait pas ne pas s'attacher aux créatures à partir du moment où il se détachait du vrai Dieu vivant, de la vie de relation. Donc il a cherché à vivre en dehors de Dieu. Écoutez saint Paul à propos des païens. Ils sont inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils n'y ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou action de grâce. C'est Romains 1:20-21. Ils n'y ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou action de grâce, mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur inintelligent s'est enténébré. Ils ont perdu la connaissance de Dieu, de ce fait même. S'ils n'ont pas rendu à Dieu gloire ou action de grâce, ils n'ont pas voulu l'adorer, ça c'est le péché originel, enfin le péché originel qui se répète dans l'histoire de l'humanité. Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous. Ils ont échangé la gloire du Dieu incorruptible contre une représentation, simple image d'homme, corruptible, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. Ici, saint Paul fait allusion au culte idolâtrique païen, on se prosternait devant des images finalement d'animaux, hein. Mais par la suite il précise aussi: Dieu les a livrés selon les convoitises de leur cœur à une impureté où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature de préférence au créateur. Et voici le péché d'idolâtrie: adoré et servi la créature de préférence au créateur. Tous ces amours impurs, possessifs, qui font qu'on fait passer la relation à l'humain avant la relation à Dieu, au lieu d'aimer Dieu de tout son cœur, d'un cœur sans partage, on est partagé, on n'arrive pas à rentrer dans cette extase, dans cet amour brûlant, dans cette vraie charité divine. Bon, donc ça, on l'a vu jusqu'ici, cette lutte contre la cupidité, contre les attachements qui nous empêchent de rentrer dans un amour pur et d'aimer les autres aussi d'un amour pur. Et comme je vous dis, ça s'enracine dans un péché qui est premier, qui est le refus d'adorer Dieu. Et le refus d'adorer Dieu relève de l'orgueil. En fait, ici, je voudrais vous dire qu'il y a deux grands pôles de péché. Il y a la cupidité et l'orgueil. C'est deux choses différentes. Mais ce qui est plus profond et premier, c'est l'orgueil. Quand je dis l'orgueil, je pense donc à la manière dont le catéchisme de l'Église catholique a défini le péché originel. L'homme tenté par le diable a laissé mourir dans son cœur la confiance. Nous sommes au numéro 397. A laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur. En abusant de sa liberté, a désobéi au commandement de Dieu. Oui, dans ce péché, l'homme s'est préféré lui-même à Dieu. Par là même, il a méprisé Dieu. Il a fait choix de soi-même contre Dieu. L'homme était destiné à être pleinement divinisé par Dieu dans la gloire. Par la séduction du diable, il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu et avant Dieu, et non pas selon Dieu. Autrement dit, le démon a réussi à faire dévier la prédestination, dans le sens que ce désir de Dieu inscrit dans le cœur de l'homme a été dévié dans le sens d'un désir de divinisation de lui-même, d'exaltation de lui-même pour lui-même, dans une recherche de sa perfection propre. Alors qu'en fait, il ne pouvait s'élever qu'en se perdant lui-même en Dieu, qu'en aimant Dieu plus que lui-même, qu'en rentrant dans un amour extatique, comme je vous ai dit ce matin. Donc, le démon jaloux de notre prédestination a réussi à nous détourner de la voie filiale, de la voie d'enfance, de la seule voie qui pouvait nous permettre de nous élever, celle de l'abaissement du petit enfant, qui se vit de plus en plus dépendant de son Créateur et sauveur de son Père. Bien. C'est pour ça qu'il a attaqué d'abord au niveau de la confiance. Il a perdu la confiance. L'homme a cessé de se laisser aimer. Et en cessant de se laisser aimer, il s'est retourné sur lui. Il ne regardait plus vers Dieu, il n'était plus ouvert à cet amour premier. Et il a cherché à s'élever à ce moment-là lui-même par lui-même. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Il n'y a pas dans l'évangile simplement la loi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à tous ses biens, mais il y a aussi la loi de l'abaissement, de l'humilité, qu'on a entendue ce matin à la messe. Et donc si vous comprenez bien la logique des choses, comme le dit le catéchisme, l'orgueil est la racine de tous les péchés, même y compris de la cupidité. Et dans le concret de la vie, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont complètement, comment dire, immergées dans l'affectif, dans le passionnel, dans des attachements humains et qui vivent que de ça, que ce soit sexuel ou pas sexuel, ça ne change pas grand-chose, c'est de l'idolâtrie. Puis il y en a d'autres qui sont plus dans un orgueil qui va dans le sens d'un esprit de domination. Une exaltation d'eux-mêmes dans le pouvoir, l'idolâtrie du pouvoir. Et c'est quand même un peu deux cas de figure différents. Donc il y a quand même deux pôles, le pôle de la cupidité, le pôle de l'esprit de possession et l'esprit de domination, disons, qui reflètent plus visiblement cet aspect d'orgueil. Mais néanmoins, on ne tomberait pas dans la culpabilité si on était dans l'humilité. Et si on était réceptif et ouvert à l'amour gratuit de notre Père du Ciel. Donc tout s'origine dans un péché radical qui est à la racine de tous les autres péchés, qui est le péché originel. Volonté d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Comme me disait une personne extrêmement blessée, moi par moi. Moi par moi. C'est bien le programme de l'homme moderne. Moi comme centre, comme but, et par moi, sans dépendre de Dieu. La réalisation de soi, comme on dit maintenant. Cet esprit d'autonomie, ce refus d'adorer Dieu, de rendre grâce, de reconnaître son amour premier qui est à l'origine de tout, de notre vie, ce Dieu créateur et sauveur, notre Père bien-aimé, cet orgueil blesse le cœur de Dieu plus que tout le reste. Nos péchés d'impureté, nos convoitises, nos souillures charnelles, cet amour possessif, le blesse aussi, mais ça n'a pas la même profondeur de péché, si je puis dire. Saint Jean de la Croix explique dans La Nuit, quand il parle dans son livre La Nuit obscure, où il décrit pas simplement la nuit des sens, mais la nuit de l'esprit, que c'est au niveau de la nuit d'esprit qu'on est libéré du péché originel. C'est dans la nuit de l'esprit que le Seigneur nous purifie de cette racine ultime de tous les péchés, qu'est le péché originel, l'orgueil. En fait, c'est ici que s'opère un dépouillement radical du vieil homme. Alors comme, je précise une chose avant que je n'oublie, comme Saint Jean de la Croix a une vision, je dirais, très réaliste des choses, il explique en même temps qu'en réalité la purification des sens ne s'achève qu'avec la purification de l'esprit, ce qui est logique, ce que j'ai dit. C'est-à-dire, si la racine ultime et cachée de nos cupidités relève de l'orgueil, et que cet orgueil n'est vraiment détruit que dans les ultimes purifications, la purification des sens marque une étape, mais ne s'achèvera vraiment qu'avec les purifications ultimes. Ce qui fait que les contemplatifs doivent faire attention. Pourrait à la limite être repris, ce qui pouvait être repris par des patients qui ont été même crucifiés, mais pas entièrement, même si elle repentit, il y a une racine qui reste, il y a quelque chose qui reste, qui fait qu'il faut qu'ils soient vigilants. Les seules personnes qui soient vraiment mortes, totalement mortes, aux passions de la chair, c'est celles qui sont totalement libérée d'elle-même et plongée en Dieu. Ça, c'est la vie mystique. En tout cas, le contemplatif n'échappe pas à la tentation de l'orgueil. C'est pour ça que on a pu voir dans l'histoire de l'Église des prêtres zélés arrivés à une vie spirituelle assez rayonnante et ayant des grâces de contemplation évidentes, pour ainsi dire permanentes, tombées comme des cèdres du Liban, comme dit c'est Saint Louis-Marie de Montfort qui le compare à des grands cèdres du Liban. Alors, vous avez là un petit chef-d'œuvre. Ça, c'est de la théologie mystique adaptée à la faiblesse de notre esprit, c'est-à-dire dans un langage plus simple, mais où Saint Louis-Marie de Montfort parle de choses sérieuses. Il parle de choses sérieuses parce qu'en réalité... Ah, voilà. Ah, combien a-t-on vu de cèdres du Liban et d'étoiles du firmament tomber misérablement et perdre toute leur hauteur et leur clarté en peu de temps. Ça, c'est contemplatif, les cèdres du Liban. Terre, il a écrit des pages très belles quand il était moine, il était fervent, il cherchait Dieu, on peut penser qu'il était arrivé à une certaine vie contemplative. On peut en douter aussi parce qu'ensuite il s'est marié avec une... Mais en tout cas, il avait des grâces de lumière, c'est évident. Et puis on connaît d'autres grands théologiens qui ont mal fini. Bon. D'où vient cet étrange changement ? Ça n'a pas été faute de grâce, qu'il manque à personne, mais faute d'humilité. Ils se sont crus plus forts et suffisants qu'ils n'étaient. Ils se sont crus capables de garder leur trésor. Ils se sont fiés et appuyés sur eux-mêmes. Ils ont cru leur maison assez sûre et leur coffre assez fort pour garder le précieux trésor de la grâce. Et à cause de cet appui imperceptible qu'ils avaient en eux-mêmes, quoi qu'il leur semblât qu'ils s'appuyaient uniquement sur la grâce de Dieu, que le Seigneur très juste a permis qu'ils ont été volés en les délaissant à eux-mêmes. Dur le combat, hein? On peut régresser, on peut perdre les grâces. On ne peut pas se contenter de maîtriser les passions et de se sentir, comme on dit maintenant, propre sur soi. quelque chose de plus grave que la cupidité. On peut sentir qu'on a acquis une liberté, qu'on est plus unifié, plus en possession de soi. Mais c'est quand on commence à être grand, à avoir plus de maturité humaine et spirituelle, c'est là qu'on a le plus besoin de se faire petit. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser, dit le Siracide. D'ailleurs, Saint Louis-Marie Montfort cite ce passage de l'Ecclésiastique, dont je peux vous donner les références. Il le cite précisément dans ce contexte où il essaye de montrer qu'il y a un danger terrible qui nous guette, qui est celui de se complaire en soi dans les grâces reçues, de se quelque part de se les approprier, en tout cas de s'appuyer sur elles, sur ce qu'on croit avoir possédé, parce qu'on sent bien qu'on progresse, notamment on a progressé dans cette maîtrise de nous-mêmes qui est très agréable, et cette liberté vis-à-vis des passions de la chair, et on regarde ceux qui sont encore englués dans ces passions de la chair avec une certaine condescendance. Écoutez, plus tu es grand, Siracide 3.18, plus tu es grand, plus il faut t'abaisser pour trouver grâce devant le Seigneur. En fait, c'est pour ça que je vous parle de ces ultimes purifications, pour que vous compreniez bien jusqu'au bout le danger, parce que cette logique-là de penser que la racine du combat, elle est au niveau de l'humilité, enfin le combat le plus profond, il est au niveau de l'humilité, en réalité, ça reste vrai à tous les moments du chemin. Même si de fait ce n'est que vers la fin de la vie, dans les purifications ultimes, que le Seigneur nous libère radicalement de l'orgueil spirituel. Mais les pharisiens nous offrent l'exemple de personnes ayant acquis une maîtrise d'eux-mêmes et une vie moralement honnête, mais étant passées à côté du vrai combat, qui est celui de l'orgueil. Et à leur insu. Ils ont du zèle pour Dieu, mais mal éclairé, dira saint Paul. Et aucun d'entre nous n'est à l'abri de ça. Alors, on va parler un langage un peu différent de saint Jean de la Croix. Je m'inspire du père Thomas Philippe. L'orgueil, il est au niveau du cœur. Dans l'Écriture, il est dit, à certains moments, son cœur s'exalta. L'exaltation de nous-mêmes se joue dans le cœur de l'homme, qui se détourne de Dieu, de son Créateur, et qui se laisse prendre par un esprit d'autonomie et d'exaltation de soi par soi. Le Seigneur commence par purifier notre cœur au niveau de l'attachement aux convoitises. Même si cette purification des sens n'est pas radicale, elle aboutit à un état, comme je vous ai dit, de vie contemplative, dans lequel se réalise une certaine unification de la personne. La chair est plus soumise à l'esprit et en jouit d'une plus grande liberté. La mûre possession de soi, comme disait Jean-Paul II, état agréable, qu'on ne regrette pas. Mais il reste une purification du cœur plus radicale. Et ici, je dis pas purification de l'esprit, mais purification du cœur. Ça, je m'éloigne un peu du langage de saint Jean de la Croix. Mais parce que saint Jean de la Croix dépend du langage thomiste, cette question du cœur et de l'esprit, on y reviendra un peu par la suite. Mais je dis purification du cœur ici parce que cette purification plus profonde du cœur, qui ne se limite pas à couper les attachements aux passions, la chair, cette purification plus radicale du cœur, elle est au niveau donc de l'orgueil, et il s'agit là en fait de ce qui est le joyau, mais ce qui est le but ultime, ce qui est vraiment le trésor, qui est de retrouver un cœur d'enfant. Un cœur nouveau, c'est ce cœur d'enfant, de tout petit, qui est vraiment le secret de la vraie sainteté. Un cœur d'enfant dans un abandon total, une confiance absolue, pour reprendre des expressions du père Thomas Philippe. L'abandon total, la confiance absolue du tout petit, le cœur ouvert, qui se laisse aimer, qui se laisse toucher par la tendresse du père. C'est ce cœur-là qui a été profondément abîmé et qui est comme mort en nous, qui doit ressusciter. C'est ce cœur du tout petit qu'il nous faut retrouver. Il y a la blessure du péché originel, et puis c'est surajouté tout ce qui nous a poussé à nous refermer sur nous-mêmes, à nous complaire en nous-mêmes plutôt qu'à nous complaire en Dieu. Toute cette difficulté qu'on a à se laisser aimer a été aggravée par les péchés de nos parents. Notre cœur de tout petit s'est aussi fermé à cause des déceptions. C'est-à-dire, il n'y a aucune mère marquée par le péché originel qui ait pu donner à notre cœur d'enfant toute la tendresse dont il avait besoin pour se laisser aimer sans crainte et se livrer et s'abandonner. Donc, tous ces durcissements, ces blocages, ces résistances à l'amour total de Dieu qui nous appelle à une réponse totale, cette incapacité que nous avons à nous abandonner totalement à la tendresse de notre Père du Ciel, elles sont plus compliquées par nos blessures parentales, nos blessures qui se sont surajoutées encore une fois à la blessure du péché originel. Je prends ici un exemple donné par Bernard Dubois lors de l'agapé-thérapie que j'ai fait avec lui. Il citait cet exemple d'une personne handicapée qui était hospitalisée, s'est retrouvée dans une grande solitude dans sa chambre et qui était en attente d'une visite, d'être en relation. Et il y a une première personne qui est handicapée mentale. Première personne qui rentre dans la chambre sans savoir sur qui tomberait, qui, dès qu'elle voit qu'elle a affaire à une personne handicapée, tout ça, est gênée et referme la porte. Alors qu'elle s'était spontanément levée et qu'elle était toute prête à la rencontre. Là-dessus, quelques jours après, il y a une deuxième personne qui vient et qui... À la porte, cette fois-ci, la personne handicapée fait simplement un petit geste d'ouverture et d'attente, mais l'autre ferme aussi la porte. La troisième personne qui est passée, la personne handicapée, n'a plus bougé du tout. Quand je dis blocage, cœur qui se referme, c'est de ça dont je parle. En réalité, dès le sein de notre mère, nous étions marqués par le péché originel et donc nous n'avions pas un cœur immaculé comme celui de la Vierge, tout ouvert et tout apte à se laisser toucher et pénétrer par l'amour premier de notre Père du Ciel. Mais toutes ces déceptions par rapport à l'amour attendu et non reçu n'ont fait que fortifier un moi qui en réalité survit et veut survivre dans ce monde dur sans dépendre de l'autre. c'est-à-dire sans pouvoir s'ouvrir et se livrer totalement. Bon, nous sommes tous des blessés et des déçus de l'amour, et dans le cadre d'une agapé thérapie, dans le cadre d'un accompagnement psychologique, on peut essayer de discerner les moments, les traumas, comme disent les psys. Notamment, le plus grand trauma, c'est ce qu'on appelle la blessure d'abandon. C'est-à-dire, j'attendais, j'avais le cœur ouvert, j'attendais et j'ai été abandonné. Et d'où une angoisse d'abandon que les psychologues ne savent pas soigner, parce que c'est l'angoisse la plus profonde, c'est l'angoisse du cœur du tout petit, l'angoisse d'abandon. L'angoisse d'abandon est telle que, vous savez, il y a eu au Moyen-Âge, je ne sais pas si l'expérience a été rééditée depuis, j'espère que non, mais il y a eu au Moyen-Âge un empereur germanique qui ne sait plus à faire cette expérience de demander à des femmes de s'occuper de nouveau-nés comme elles s'occuperaient d'objets, en faisant que des soins matériels. Ils sont tous morts. L'homme vit de relations. Si on atteint un niveau de froideur et de dureté tel à cet âge-là, au moment où le cœur est vulnérable, c'est la mort. Ça nous dit jusqu'où va l'angoisse d'abandon. Et au fond de notre cœur blessé, il y a ce fond d'angoisse, cette angoisse d'abandon. Et il faudrait qu'on réouvre notre cœur malgré cette angoisse d'abandon, en traversant cette angoisse d'abandon. Ça, personne ne le veut. On a nos barricades, on a mis notre plan de survie en place, si je puis dire, dans un monde dur. Il n'y a pas de tendresse pure. Et donc, on ne se laisse pas aimer jusqu'au bout. Et de toute façon, on ne connaît personne qui nous aime jusqu'au bout. Si ce n'est Jésus qui est là, mais avec lequel on n'a pas, précisément en raison aussi de nos durcissements, la capacité d'être en contact avec cet amour brûlant. De toute façon, on a peur de se livrer. Il y a là quelque chose de radical, vous voyez, dans ce fond de refermement sur nous-mêmes et cette incapacité à nous laisser aimer jusqu'au bout, à nous laisser toucher, à lâcher nos défenses. Il y a là quelque chose qui peut être dont nous ne pouvons être libérés que par le Christ, qui est descendu dans nos petits enfers intérieurs, dans l'abîme de nos angoisses d'abandon, qui a voulu sur la croix être comme abandonné par le Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pour pouvoir nous rejoindre dans cette angoisse-là et nous réouvrir la porte de la confiance filiale. Parce que dans cette angoisse d'abandon qu'il a vécu jusqu'à verser des larmes de sang, mon âme est triste à en mourir, Jésus est allé en même temps jusqu'au bout de la confiance filiale. Abandonné par le Père, il s'est abandonné totalement en lui. Dans un abandon filial vécu alors même qu'il se ressentait dans tout son être comme abandonné par le Père. Ça, c'est l'obéissance filiale vécue par le Christ en réparation de nos doutes, en réparation de nos fermetures sur nous-mêmes, en réparation de nos refus d'abandon. C'est le chemin que Jésus a vécu, assumant, je dirais, voulant vivre son amour filial pour le Père dans un cœur d'homme, pour réouvrir cet espace d'une vie filiale dans notre cœur d'homme. Et réparer nos désobéissances, et notre volonté d'indépendance, d'autonomie. Alors, laisser Jésus nous approcher là où ça fait le plus mal, laisser Jésus avec toute sa délicatesse réouvrir ou briser, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, enlever toutes les murs, des barricades intérieures que nous sommes mis, qui font que notre cœur est plus un cœur de pierre qu'un cœur de chair. Ça relève proprement de la nuit de l'esprit. Mais vous comprenez qu'à ce niveau de profondeur, il n'y a pas de prise directe, évidemment, sur ce cœur profond de petit enfant qui souffre au fond de nous-mêmes. Tout ce que nous pouvons faire, c'est suivre le chemin qu'a indiqué la petite Thérèse, qui est la meilleure ascèse pour les purifications profondes, qui correspondent à cette purification radicale du cœur, et qui est la voie d'enfance, évidemment. Pratiquer comme on peut, fait d'humilité, de confiance et d'abandon, de petits actes d'humilité, de confiance et d'abandon, qui vont dans ce sens-là. Mais, encore une fois, là, on peut s'appliquer à suivre la voie d'enfance sans avoir encore un cœur d'enfant, mais en faisant notre possible. À la fin de sa vie, la petite Thérèse disait qu'elle ne s'appliquait plus qu'à la voie d'enfance. Mais ça fait longtemps qu'elle avait fini la purification des sens. Voyez. Ce que je veux dire, c'est que la voie d'enfance, comme c'est le secret de la guérison, de la purification radicale du cœur, ça va à la racine du péché. Pie XI a dit que la voie d'enfance était le secret de la sainteté, parce que ça va au cœur du problème, si je puis dire. C'est évidemment une voie que nous pouvons suivre tout le temps. Et qui devrait envelopper toutes les autres. Mais elle ne nous dispense pas de la purification des tendances charnelles. Il ne faut pas penser que simplement parce que on tâche d'être humble, confiant, abandonné, qu'on dit « moi je m'abandonne au Seigneur », on ne va pas avoir à lutter contre les passions de la chair. Mais non, parce que ce serait vouloir vivre la purification de l'esprit tout de suite comme ça et sans traverser la purification des sens. Donc il faut intégrer, voyez, toute la cesse traditionnelle de lutte contre les convoitises à l'intérieur d'une voie que l'Esprit Saint a remis en évidence dans son Église, d'abord en préparant par Saint Jean de la Croix, et en redisant les choses d'une manière plus simple, finalement plus profonde, par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a montré, je crois, on peut le dire, la purification de l'esprit comme une voie d'enfance, comme un chemin pour retrouver un cœur d'enfant. Oui.
Cette voie, c'est le VOIX ou le VOIE, le chemin ou la
VOIE,
voie, la petite voie d'enfant.
Non, VOIE, le chemin de l'enfance. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Je dois seconder la grâce. Je dois aller dans le sens de la grâce. Le Seigneur Jésus a payé le prix pour me redonner un cœur d'enfant et me purifier radicalement de ce qui m'empêche de plonger dans sa vie d'amour filial pour laquelle j'ai été créé. Mais il me demande d'avancer autant que je le peux sur ce chemin en suivant la voie d'enfance. Ici, dans la voie d'enfance, par exemple, on profite de nos chutes charnelles, de ces péchés de faiblesse qui restent, même pour le juste, pour celui, en tout cas, évidemment, pour le contemplatif, comme je l'ai expliqué, le contemplatif, malgré tout, d'abord, la purification des sens n'est pas radicalement faite, et ensuite, il n'est pas toujours dans un état de contemplation effectif. Et donc, il n'échappe pas à des mouvements de colère, à des choses comme ça. Dans la voie d'enfance, je profite de mes chutes charnelles pour m'humilier devant Dieu, pour poser un acte de confiance en sa miséricorde, pour m'abandonner à cette miséricorde. Toute chose qui fait que je dépends de sa grâce, que je m'ouvre à son amour gratuit, profitant de mes fautes. Mais il ne faudrait pas voyez, si je puis dire, mal abuser, entre guillemets, mal comprendre cette voix d'enfance en disant, moi j'ai plein de défauts, mais c'est pas grave, je les offre au Seigneur, de toute façon on est pécheur, on peut pas faire, je suis gourmand, oui, mais c'est pas grave, moi je suis dans l'humilité, je suis dans l'abandon, j'offre ma misère au Seigneur. Et puis on lutte pas contre le péché, voyez, on se rend pas compte que le problème, il est de l'attachement. De l'attachement intérieur dans notre cœur, et que ça doit être déraciné aussi. Vous me suivez? C'est pour ça qu'il ne faut pas que cette spiritualité de la voix d'enfance que Pierre Coursat a mis en valeur et dans laquelle il a vécu, parce que lui, il a vécu, je pense, la nuit de l'esprit, et il s'est enfoncé dans un chemin de petitesse à la fin de sa vie, dans les dernières années de sa vie. Mais les dernières années de sa vie dans lesquelles il a pu plonger, me semble, dans la vie mystique, s'enfoncer quelque part dans le sein du Père. Il y a des passages que je n'ai pas retrouvés, mais qui en parlent, où il décrit quelque chose qui relève, où j'entends l'expression d'une vie mystique. Il ne faut pas oublier que pendant des années, avant de vivre ce temps-là, il a lutté. Il a vécu la purification des sens. Il s'est battu avec lui-même. Et puis aussi, le Seigneur lui a donné la grâce de comprendre dès le début de sa conversion que son péché, le premier, c'était l'orgueil. Il a reçu cette grâce-là aussi. Donc il a gardé en vue le nerf de la guerre, si je puis dire. Vous voyez? Mais il ne faut pas négliger les moyens traditionnels de pénitence. C'est là que je voudrais terminer, dans la communauté, au nom d'une voie d'offense qui nous dispenserait notamment de faire des efforts. Parce qu'on est trop petit. Oui. C'est bon comme ça? Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.